Admettons ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Midi et des Poussières en direct ce jeudi 5 février 2026 depuis le studio Floracois de Radio Barthas et jusqu'à vos oreilles via la fréquence 107 de la bande FM ou via les internets sur radiobarthas.net. Aujourd'hui, dans cette émission, on va vous raconter des histoires et on va vous donner envie, j'espère, d'aller en écouter. Le 14 février prochain s'ouvre la 35e édition du festival Contes et Rencontres en Lozère et pour en parler, je suis avec vous Evelyne Perrichon, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Radio Barthas. Evelyne, vous êtes conteuse et vous êtes la coprésidente de la Fédération départementale des foyers ruraux de Lozère qui organise ce festival. Alors commençons par le commencement. Il était une fois le conte. Qu'est-ce que le conte pour vous ?
Alors, c'est une longue histoire. Le conte, c'est quelque chose qui a traversé les âges. Ce sont des histoires qui ont traversé les âges, qui ont traversé les civilisations aussi. Et comment s'expliquer que ces histoires, 2000 ans après, on se les raconte encore ? Parce que ce sont des histoires qui portent l'humanité et qui parlent de l'humanité.
Est-ce qu'on a des réponses alors à ces questions ? Pourquoi on compte ? Qu'est-ce que permet le conte ? Qu'est-ce qu'il offre ? Est-ce qu'il rassure ? Est-ce qu'il apprend ? Quelles sont ses fonctions ?
Le conte, il peut... Alors, c'est pas un enseignement moral, loin de là. Mais le conte, il parle à l'imaginaire de chacun. Et il laisse chacun cheminer dans son imaginaire et avancer dans sa vie. Les contes, donc, je disais, parle de l'humanité. Et si on reprend les contes d'origine, on traite tous ces problèmes de relations, la jalousie, l'amour, la mort, la vie, la naissance. Tous ces thèmes-là, on les retrouve dans les contes. Et on s'est fourvoyé beaucoup avec Walt Disney, qui nous a imposé une vision qui a fermé l'imaginaire de toute une génération autour du conte.
En quoi est-ce que ça a fermé l'imaginaire, selon vous ?
On ne peut plus raconter Blanche-Neige sans que les enfants ne voient la robe de Blanche-Neige avec les petits oiseaux, et tout ça, alors que le thème de Blanche-Neige, c'est un tout autre thème sur la relation à la mère, sur la relation à la mort, sur le fait de, pour grandir, il faut tuer la mère. Voilà, il y a toutes ces choses-là dans le conte qu'on ne retrouve pas. C'est trop gentil dans Walt Disney. Oui. C'est pas gentil, les contes.
Il faut se replonger peut-être dans la psychanalyse des contes de fées, c'est ça, de Bettelheim, qui a fait un premier travail de...
Il a fermé des choses aussi. Mmh. Il a stéréotypé les contes aussi, beaucoup. Mmh.
Donc un conte doit rester ouvert et il appartient à tous en fait. On peut chacun projeter ce dont on a besoin dans le conte.
Chacun prend là où il en est. Donc c'est pour ça qu'il parle à tous et qu'il peut apporter quelque chose à tous. Et c'est pour ça qu'il a autant d'attrait. Quand on ne l'habille pas de plein d'autres choses, quand on n'en fait pas des spectacles avec plein de trucs autour, mais quand on reste vraiment dans la parole, quand on transmet cette parole du conte, là, le conte agit et répond aux besoins.
Et donc, pour transmettre ce conte, il y a le conteur, la conteuse, qui a un rôle tout aussi important que le conte lui-même. Et comment est-ce qu'on devient conteuse, conteur ? Comment est-ce que vous êtes devenue conteuse ?
Moi, c'est avec le temps. J'ai beaucoup raconté, alors pas beaucoup à mes enfants, mais beaucoup à mes élèves. Et j'ai travaillé avec des enfants. À l'époque, on appelait ça des prédélinquants. C'est horrible comme terme. Mais là, je leur ai raconté des histoires. Mais pas en me posant la question de savoir quel compte j'allais prendre pour faire travailler la psychanalyse et tout ça. Non, j'ai raconté des histoires pour le plaisir d'être ensemble et de se transmettre une parole.
Et c'était des élèves, vous étiez enseignante ?
J'étais enseignante longtemps dans ma vie.
En quelle discipline ?
Alors, j'étais enseignante en primaire et dans l'enseignement spécialisé beaucoup.
D'accord. Et je me demandais, est-ce qu'il y a aussi une forme de transmission pour devenir conteur ou conteuse ? Il faut qu'un autre conteur ou conteuse nous ait transmis quelque chose ?
Oui. C'est,
il y a une filiation.
C'est la transmission qui est le thème du festival cette année est vraiment importante au niveau des conteurs. Un conteur est généreux. Il est un écrivain, il écrit son roman et c'est son roman à lui et on ne va pas le plagier. Alors qu'un conteur, il donne son histoire et chacun la prend comme il la veut et il peut la transformer et l'écrire s'il il faut en garder le sens. Mais les histoires appartiennent à tout le monde. Et la transmission, oui, elle est vraiment importante. Et le festival a un grand rôle dans la transmission des contes en Lozère, parce que donc c'est la 35e édition. Et il y a eu des stages de conte, avec des conteurs pratiquement tout, depuis le début. Ce qui fait qu'en Lozère, il y a une pépinière de conteurs assez importante.
On va y revenir tout à l'heure plus en détail, mais je voulais juste m'attarder un instant sur cette notion justement donc de la transmission orale qui permet à chaque conteur d'avoir sa liberté d'interprétation du conte. Mais quand même, depuis très 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 longtemps, les contes sont aussi transcrits. À l'écrit. Oui. Et le premier, par exemple, on dit que le premier conte, ou du moins récit oral qui a été transcrit, c'est l'épopée de Gilgamesh, qui raconte les aventures de ce roi mésopotamien légendaire. Et ça a été transcrit sur une série de tablettes d'argile avec des signes cunéiformes. Et ça, c'était déjà il y a 2000 ans avant notre ère. Mm-hmm. Donc ça fait quand même très longtemps qu'on écrit les contes. Est-ce que ça les ferme aussi, selon vous, ce passage à l'écrit ? Ou il est important ?
Non. Maintenant, la transmission, oui, n'est plus du tout orale. Alors, c'est vrai qu'elle elle date de longtemps, la transmission écrite des contes, mais elle a pendant très longtemps été seulement orale. Et puis, on parlait du renouveau du conte. Le renouveau du conte a fait que beaucoup de conteurs ont collecté des contes un peu partout et pour pouvoir les transmettre un peu plus, les ont écrits. Mmh.
Parlez-nous justement de ce mouvement, donc on a appelé le mouvement du renouveau du conte, parce que le festival Contes et Rencontres, il s'inscrit un peu dans cette origine-là. Donc c'est un mouvement en France qui a démarré dans les années 70.
Dans les années 60-70. Et là, quand on s'est aperçu que culture populaire, éducation populaire, voilà, allaient de pair. Et on s'est aperçu aussi que le conte pouvait être un moment de transmission, de rassemblement aussi. Et des conteurs ont émergé. Il y a eu dans les bibliothèques à cette époque, dans les années 60, entre 60 et 70, ça s'appelait l'heure joyeuse. C'était un temps de lecture offert aux enfants, parce qu'on avait... On voulait prendre en compte l'importance de la lecture pour les enfants. Et puis, il y a eu l'heure du conte. Et dans les premières bibliothèques, dans ce temps-là, elles ont fait appel à des conteurs pour venir raconter aux enfants. Mais le conte, ce n'est pas seulement pour les enfants. Le conte parle à tout le monde.
Et donc en Lozère, il y a eu donc ce festival qui a été créé en 1992. Comment ça s'est passé, donc la création, à l'initiative de qui ?
Alors la création, elle s'est faite par deux personnes et pour lesquelles j'ai une grande admiration. Et je vais les citer, tant pis, pour Marie Huguet et Sylvie Chabrol. Avec à l'époque Jean-Luc Aigoui qui était président de la fédération. C'est Marie et Sylvie qui ont eu l'idée de mettre en place ce festival qui était plus au départ chez l'habitant, pour renouer avec les veillées comptées qu'il pouvait y avoir. Et elles ont eu une sacrée force pour monter ce festival, parce que c'est difficile, la forme du festival est difficile, puisqu'on est sur toute la Lozère.
Sur tout le département.
Voilà, tout le département. Ouais. C'est pas un lieu où les gens viennent. Et c'est les compteurs qui vont, qu'on emmène et qui sont accueillis dans plein de petits villages. Et on fonctionne comme ça encore maintenant. Et là, quand on parle de transmission, il y a eu une superbe transmission parce que ça fait 35 ans que ça dure avec la même énergie qu'il y a eu au départ. Quoi.
Et au départ, est-ce que je me demandais, c'était plutôt des contes locaux qui étaient mis en avant dans le festival, ou ça a toujours été, comme c'est encore le cas aujourd'hui, on rentrera plus dans le détail de la programmation, mais avec des contes qui viennent d'un peu partout et aussi même du monde entier? Ou est-ce qu'il y avait une place importante pour les contes
lozériens? Alors, il y a eu une place, il a été créé dans les Cévennes, avec l'appui du Parc national des Cévennes. Il y a une grande place pour les contes locaux, pour l'Occitan. Mais très vite, il y a eu une ouverture. Parce que dès qu'on parle de contes, on ne peut pas se restreindre. Le conte, il est tellement universel que forcément, on a envie d'aller entendre ou de proposer les contes qui viennent d'ailleurs.
Et d'en découvrir d'autres, parce que c'est vrai que peut-être les contes, on pense tout de suite, par exemple, à la bête du Gévaudan ou alors la légende de Saint-Enémy, qui sont les contes très connus d'ici.
Oui, ce sont des légendes. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un conte. Une légende, elle raconte, elle explique quelque chose qui s'est passé dans le pays. On n'a pas toujours toutes les explications, donc elle s'est donnée, la légende nous donne des explications. Le conte, c'est un petit peu autre chose, parce qu'il y a des contes rattachés au territoire, des contes qui se passent sur le territoire, et puis il y a tous les contes universels qui peuvent parler de tout ce que je disais tout à l'heure, aussi bien l'amour, les relations entre les hommes, entre les humains, les humains et les dieux, les humains et le ciel.
Mais c'est vrai qu'il y a des contes qui sont très, on pourrait dire même topographiques, pour prévenir par exemple d'un danger. Je pense que la légende de Saint-Enémy, c'est un petit peu ça, pour prévenir des dangers qu'il peut y avoir dans le Tarn. Alors on dit qu'il y a le diable qui est coincé, mais c'est parce qu'en fait la rivière peut être dangereuse.
Oui, il y a les contes de prévention pour les histoires. En fait, c'est la culture et le savoir qui se transmettait comme ça. Et pour prévenir d'un danger, un conte, une histoire a été écrite. Et du coup, comme on se l'a raconté dans l'éveillé, ça prévenait et ça évitait qu'on aille dans les endroits dangereux, où ça expliquait pourquoi ça se passait comme ça et pas autrement. Quoi.
Fonction sociale. Et donc, le thème de l'édition du festival de cette année, vous l'avez dit, ce sont les transmissions. Donc, les transmissions de la parole, de la mémoire, du geste, et ces histoires qu'on transmet de bouche en bouche, d'oreille en oreille, et qui sont aussi comme des ponts entre les générations. Comment vous est venu ? C'était comment est venu ce thème ? Enfin, comment vous avez décidé ?
Chaque année, on essaye d'avoir un fil rouge qui relie tous les conteurs et qui relie tous les gens qui vont venir écouter des histoires. Et la transmission, ça nous paraissait important. D'une part, la transmission, ce dont je parlais, pour que le festival arrive à vivre 35 ans, il y a eu une belle transmission entre les créatrices du festival et puis ceux qui ont repris le flambeau à chaque fois. Et puis toute cette transmission de la parole, de la mémoire, et intergénérationnelle aussi, parce que dans les soirées contes, on n'a pas que des enfants ou pas que des vieux. Il y a vraiment un public très divers et varié. Et puis transmission aussi pour découverte des différentes cultures. Cette année, on accueille une conteuse qui a rassemblé des contes d'Océanie, un conteur d'origine japonaise qui va nous partager sa culture aussi. Et voilà, toute cette transmission-là nous paraît importante. Et puis, on garde aussi la transmission autour de la langue d'oc. Il y a un conteur qui vient des Cévennes et qui raconte parfois en occitan, parfois en français, mais on comprend. Enfin, voilà, c'est pas hermétique. C'est vraiment un partage et une transmission, vrai.
Et alors, vous les connaissiez tous, ces contes, ou il y en a que vous avez hâte de découvrir d'entendre?
Alors, il y en a que j'ai hâte de découvrir, parce que pour faire la programmation, on travaille avec une commission contes. Donc, et on essaie d'aller chercher des conteurs un peu partout en France. On va dans les festivals, on va écouter des conteurs, mais... On peut plus maintenant, vu l'envergure du festival, c'est plus une seule personne qui peut aller écouter les contes. Donc on se fait confiance dans la commission contes. Certains ont vu les spectacles et disent celui-ci, il faut qu'on le fasse venir, il faut qu'on écoute ces contes-là. C'est comme ça qu'ils sont repérés. Donc j'ai hâte parce qu'il y en a certains que je ne connais pas encore.
Et vous disiez justement spectacle, parce que parfois on est un peu à la lisière en fait entre juste simplement raconter et un peu le théâtre aussi.
Même au niveau des intermittents du spectacle, on ne sait pas comment classer les conteurs.
Mmh. Ouais, ouais.
Et moi j'aime pas trop le mot spectacle quand je raconte, mais c'est un mot qui passe partout et qui permet que les gens comprennent ce qu'on va leur proposer, qu'on va leur proposer quelque chose, qu'ils vont venir voir, s'asseoir, écouter. Ça. Donc, et là, actuellement, il y a des conteurs et des gens qui partent plus sur le récit de vie.
Mm-hmm.
Alors, des transmissions qui sont tout aussi importantes.
Mm-hmm. Et oui, on peut citer par exemple un conte, je feuillette en même temps le catalogue, un conte de Rachid Bouali, mm-hmm. C'est ça, voilà, qui parle justement, qui s'inspire de son histoire personnelle et qui se replonge dans son passé et ses origines kabyles.
Oui,
par exemple.
Voilà, et c'est une transmission importante, tout en gardant bien en tête l'universalité du conte. Si c'est un récit de vie qui est fermé sur sa propre petite vie, ce qu'on a pu vivre, qui était dur ou qui était beau, ça apportera rien à personne. Mais comme Rachid, quand il parle, c'est universel, cette façon, l'accueil qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut rencontrer parce qu'on est kabyle, et pas, peut-être pas à la bonne place au bon moment. Enfin, il y a toutes ces questions-là qui reviennent. Et ça, c'est important. Ça parle à tout le monde, ces choses-là.
Des choses universelles. Et il y a aussi certains contes, j'ai vu dans le catalogue, qui abordent des enjeux sociétaux, comme par exemple la vieillesse, mm-hmm. le grand âge, avec un conte qui s'appelle « Elle s'appelle Rose ». Un autre qui aborde la question de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire, avec un conte qui s'appelle « Tu mais t'es-tu ».
Oui.
Donc voilà, ça permet aussi, même peut-être pour les jeunes générations, de déjà les préparer à des grandes questions de société, à les éduquer à ces questionnements, à ces enjeux.
Oui, on ne fait pas de la morale, mais on fait de la transmission, justement. Et puis, une ouverture vers toutes ces questions-là qu'il peut y avoir. Et puis, peut-être, voilà, quand on parlait des femmes invisibles, c'est bien de les mettre en avant aussi.
En tout cas, voilà, un riche programme donc qui va se dérouler le festival du 14 au 28 février dans tout le département. C'est porté par l'ensemble des 66 foyers ruraux de la Lozère. Et donc, il y a combien de contes en tout
qu'on peut voir ? Il y a 33 spectacles.
33. Que certains sont joués plusieurs fois dans différents endroits.
Alors, il y a 11 conteurs. Et chaque conteur joue entre 3 et 4 fois.
Et il se déplace dans le département,
voilà,
pour que tout le monde puisse
accéder. Dans tout le département.
Très bien. Et écoutez, merci beaucoup d'être venu nous présenter tout ça. Moi, je trouve qu'il manque une émission de contes sur Radio Partas. Donc, si jamais parmi les conteurs que vous allez
rencontrer.
Avec plaisir,
avec un très grand plaisir.
Parce que la radio, c'est quand même l'oralité avant tout. Donc, c'est toujours un bon moyen pour raconter des histoires. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il y a des conteurs qui ont fait ça pendant le Covid.
Ah oui.
Qui ont fait des contes au téléphone.
Et ben voilà, en tout cas, si jamais il y a de la place sur la grille de Radio Partas pour venir y compter des choses. Merci beaucoup Evelyne Perrichon.
Merci à vous.
Voilà, donc le programme et toutes les infos sont à retrouver sur le site lozere.foyerruraux.org. Et je mettrai aussi le lien sur la page internet de l'émission Midi et des Poussières.
Et juste une petite modification qu'on a eue, puisque les gens de Florac viennent parfois à Masdeval. La soirée compte qui aurait dû se dérouler à Masdeval, se déroulera à Saint-Inimi, parce que la salle de Masdeval n'a plus de chauffage.
Oui, et en cette période, c'est important d'être bien chauffé. Et cette soirée-là, c'est quel jour ?
C'est le 24 février, avec Pascal Mitsubo Guérin, qui est japonais, d'origine japonaise. Et donc, on a déplacé le spectacle à Saint-Inimi.
Merci beaucoup, Evelyne Perrichon. À bientôt.
Merci à vous.
Honeycomb, dripping berries of sun, the sweetness that is you. Honeycomb, and I the humble bee that brings the pollen to your dear lips. Without a doubt, before the morning comes, I dream a bit of you. Honeycomb, and several languid moths surface like honeydew drops forming new, and I will feel compelled to say, honeycomb, honeycomb, with fickle majesty, your whims are always met. Honeycomb, and I the lucky fool, in courtly dress, but the jokes are all on me. And I'm reminded of your words.
All the stars burning in the sky, stars burning in the sky, how can anyone see just why?
Honeycomb, honeycomb, honeycomb.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Bartas. Il est toujours midi et des poussières et on écoutait à l'instant la musicienne états-unienne Kaja Bonnet avec un morceau qui, au-delà d'être absolument magnifique, nous permet de faire la transition vers la suite de cette émission car son titre c'est Honeycomb, ce qui veut dire rayon de miel. Le rayon de miel, c'est une portion de la ruche quand le miel repose encore dans les alvéoles de cire naturelle avant d'en avoir été extrait. Transition miel donc pour annoncer une journée apicole qui aura lieu à Florac, au siège du parc national des Cévennes, samedi 7 février. C'est la 14e journée apicole organisée par le syndicat apicole de Lozère, le groupement de défense sanitaire de Lozère et le parc national des Cévennes. Une journée à destination des apicultrices et apiculteurs de Lozère pour échanger autour d'enjeux et problématiques propres à leur profession. Il sera notamment beaucoup question du varroa destructor, une espèce d'acarien parasite de l'abeille, avec des interventions de chercheurs, de vétérinaires. Et à 15h, il y aura l'intervention de Gabriel Gonella, chercheur en agronomie, qui a mené une thèse de doctorat sur le Mont Lozère, sur le thème des interactions entre apiculture et agriculture par l'intermédiaire des ressources florales. On a échangé hier en visio, alors la qualité du son n'est pas toujours au top du top, désolé pour ça, mais on entend quand même bien ce que nous raconte Gabriel. C'est très spécifique mais passionnant, il nous explique le point de départ, les questionnements et les conclusions de son travail de recherche sur le Mont Lozère, sur les spécificités de l'apiculture en milieu agro-pastoral.
L'idée c'était d'étudier ça, donc c'était dans le cadre d'un projet un peu plus large qui regroupait ma thèse et celle d'un collègue et ami qui s'appelle Léo Mouillerland. Et on s'intéressait aux ressources utilisées par l'apiculture, aux ressources florales utilisées par l'apiculture, et Léo sous l'angle de comment est-ce qu'on se partage les ressources, et moi avec le côté production agricole, sous l'angle de comment est-ce qu'on les produit ou comment est-ce qu'on peut améliorer leur production. On est dans un milieu qui est très complexe, où les ressources sont mal connues en fait. Il y a le châtaignier dans les Cévennes par exemple, donc ça c'est une ressource qui est quand même bien connue. Moi je me suis plutôt intéressé aux ressources de montagne, vraiment de ces paysages agro-pastoraux avec pas forcément de dominante forte d'une espèce sur l'autre, une variation forte d'une année sur l'autre entre les espèces qui vont produire des fleurs. Et en fait c'est ça qui nous a intéressé au niveau de la recherche parce que jusqu'à présent les études qui ont été faites sur les ressources florales pour l'apiculture, sur les ressources florales pour les pollinisateurs en général, elles ont été beaucoup en plaine, dans des endroits où les milieux sont simples. On a des floraisons massives dans des cas de milieux de grande culture, des floraisons massives au moment du colza du tournesol, par exemple. Ou alors, dans des milieux plus naturels, il y avait des études qui ont été faites sur la côte bleue, donc au sud de la France, où il y a des très grandes étendues de romarins. Donc on a voulu confronter les résultats qui ont été obtenus dans ces endroits-là à la complexité des milieux agro-pastoraux.
Quelles conclusions vous avez obtenues? Déjà, voilà, qu'est-ce que c'était peut-être votre question au départ et quelles réponses vous avez pu apporter?
Alors, par quoi je commence? Moi, j'avais plusieurs questions que je me... Il y a plusieurs questions que je me suis posées. Donc moi, je me suis demandé comment est-ce qu'on fait pour produire des paysages agro-pastoraux qui sont plus favorables à l'apiculture. Et j'ai découpé cette grande question large en trois sous-questions. La première, c'est quoi les ressources qui sont effectivement utilisées par les apiculteurs et les apicultrices, dans mon cas, sur le Mont Lozère. La deuxième question, c'est une fois qu'on connaît ces ressources-là, c'est quoi les marges de manœuvre des agriculteurs et des agricultrices dans la mise en place de pratiques qui favorisent plutôt ces ressources. Et le deuxième volet, c'était comment est-ce qu'on fait donc, pour construire des paysages agro-pastoraux plus favorables aux ressources florales et sur le volet des motivations des différents acteurs et actrices à s'engager dans la mise en place de pratiques plus favorables. Et donc là, c'est une approche plus de sciences sociales, de géographie humaine que j'ai mobilisée.
J'ai lu en préparant notre entretien que tu avais noté, ou enfin en tout cas qu'on sait qu'avant, l'apiculture, elle faisait plus partie intégrante des exploitations agricoles, que c'était un peu plus symbiotique, alors qu'aujourd'hui, ça s'est un peu éloigné. Est-ce que tu saurais expliquer quand, comment et pourquoi est-ce que ces deux disciplines se sont éloignées?
Alors, je ne sais pas si c'est moins symbiotique parce que les activités apicoles et agricoles, elles mobilisent toujours les mêmes espaces, elles travaillent toujours au même endroit et c'est toujours les activités agricoles qui maintiennent des conditions pour produire de l'apiculture telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Ce qui s'est séparé, c'est les personnes qui mènent ces activités-là Et donc, effectivement, particulièrement en Cévennes, on a une histoire longue d'apiculture et qui était plus intégrée dans le passé dans les exploitations agricoles, avec notamment ces histoires de ruchetrons qui étaient transmis, qui avaient une valeur importante. Et donc, tout ça, c'est le mouvement général de la modernisation de l'agriculture, donc qui commence avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui s'est beaucoup accéléré à ce moment-là. Et une des caractéristiques de la modernisation de l'agriculture, en plus de la automécanisation et l'agrandissement des exploitations, c'est la spécialisation des productions. La spécialisation des exploitations agricoles et puis la spécialisation des espaces de production. Et donc, cette spécialisation, ça a conduit à la disparition de l'apiculture au sein des exploitations agricoles. Et du côté de l'apiculture, eh ben, c'est la même chose, en fait. L'apiculture professionnelle, alors je ne suis pas historien, donc mes chiffres ils sont un peu au doigt mouillé, mais elle émerge dans les environs des années 70 en tant que métier. Et c'est beaucoup des nouveaux installés qui font ça, en particulier parce que l'apiculture, c'est une agriculture qui peut se pratiquer sans disposer de terres agricoles.
Et alors, avec ces entretiens que tu as conduits pour étudier les interactions entre apiculture et milieu agropastoral, est-ce que tu as noté que, par exemple, les agriculteurs qui ne sont pas apiculteurs, ils sont enclins à justement modifier peut-être leurs pratiques pour favoriser l'apiculture, ou bien ils en ont un peu pas grand-chose à faire ?
De la motivation, il y en a beaucoup pour installer des agriculteurs et des apiculteurs et des apicultrices qui sont vus comme des personnes qui apportent de l'activité, de la jeunesse, qui apportent des enfants pour les écoles. Il y a beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices qui se sentent un peu responsables du développement territorial en général. Là-dessus, ils sont très favorables et ils discutent avec les apiculteurs et les apicultrices pour mettre en place des emplacements, pour mettre à disposition les ressources florales qu'ils ont. Et après, pour augmenter la production de ressources florales en général, ça, c'est plus compliqué parce que ça demande des changements qui sont profonds dans les systèmes de production et qui n'arrivent pas en un claquement de doigts.
Et donc aujourd'hui, en Lozère, quels sont les plus grands défis auxquels est confronté le secteur apicole ?
Ouais, alors, pour moi, les ressources florales, c'est super important. Alors, il y a eu une étude qui a été menée, alors je ne saurais plus dire dans quel cadre, il me semble que c'était dans le cadre du plan Ecophyto, il y avait des mesures des contaminations pesticides qui ont été menées en Lozère, et il se trouve que la Lozère est assez peu contaminée, et ce n'est pas très étonnant parce que c'est surtout une terre d'élevage. Donc ça, c'est une contrainte qui est très présente ailleurs en France et qui n'existe pas trop chez nous. C'est plutôt une bonne nouvelle, même s'il peut y avoir à travers l'élevage des empoisonnements d'abeilles aussi. Donc le premier problème pour moi, mais je suis encore une fois un peu biaisé par mon sujet d'étude, c'est les ressources florales, c'est le changement climatique. Moins d'eau qui implique aussi des saisons moins prévisibles, plus variables d'une année sur l'autre. Typiquement, là on a eu un schéma qui s'est pas mal reproduit ces dernières années. Alors là, ça a été mieux ces deux dernières années, il me semble, mais les années d'avant, c'était très compliqué. C'était un redoux très précoce au mois de février qui fait que les abeilles se remettent à sortir et un printemps dégueulasse qui fait que les ruches sont déjà populeuses, donc elles sont vulnérables en fait à un manque de ressources. Et la BAM, avec un temps de merde, on n'a pas de ressources ou en tout cas pas de possibilité pour les abeilles d'aller les chercher. Et ça, ça a provoqué des grosses pertes. Donc le changement climatique, ça provoque des choses comme ça. Ça provoque aussi un déficit hydrique à certains moments qui fait que les fleurs produisent plus de nectar et donc on n'a pas de mielée. Et il y a cette dynamique agricole générale avec beaucoup de verrous pour le changement de pratique et pour améliorer, pour s'adapter aussi au changement climatique. Le fait que c'est difficile de changer les systèmes de production.
Et dans le cadre donc de cette journée apicole qui est organisée au Parc national des Cévennes, est-ce que l'idée c'est de faire venir uniquement des apiculteurs ou justement aussi des agriculteurs pour les faire échanger et faire entendre ce qui agite le milieu apicole et comment est-ce que le milieu agricole est impliqué, peut s'impliquer ?
Ce serait super, ce serait déjà super de réunir des apiculteurs et des apicultrices de différentes obédiences, parce que j'en ai pas trop parlé, mais l'apiculture, c'est un monde qui est extrêmement divers. J'ai parlé d'apiculture professionnelle qui a émergé dans les années 70, blablabla, tout à l'heure, mais il y a quand même un grand nombre, et en particulier en Lozère, d'apiculteurs et apicultrices amateurs ou semi-professionnels, qui représentent à la fois un nombre de ruches, une production et un nombre de personnes qui n'est pas négligeable. Et donc faire discuter ces différents mondes, ce serait... C'est pas toujours évident et c'est déjà pas mal. Pour faire venir des agriculteurs et des agricultrices, il faudrait des sujets qui les intéressent. Et là, on va parler beaucoup du varroa. Donc, comme,
le varroa, c'est donc un parasite qui...
Ouais, le varroa, c'est un parasite de l'abeille. Les conditions de production agricole sont aussi de plus en plus difficiles. La production agricole est de plus en plus solitaire. Et les gens ont de plus en plus de charges de travail. Donc, c'est aussi difficile de plus en plus difficile. Ça, c'est un ressenti que j'ai moi, que certains collègues ont aussi, collègues agronomes qui vont interroger les agriculteurs, de faire sortir les gens des exploitations parce qu'ils sont pris dans une espèce de course. Mais il y a aussi des initiatives au Parc national des Cévennes qui ont été mises en place pour rapprocher les apiculteurs, les agriculteurs. Donc là, je pense, moi, j'ai observé ce qui s'est fait autour des projets de distribution de mélifères. Un projet de mise en place de mélifères dans les exploitations agricoles où le Parc national fournissait les plants pour soutenir les pollinisateurs en général, avec une réflexion autour de la continuité des ressources dans le temps au cours de la saison. Les végétaux étaient fournis gratuitement aux agriculteurs. Les agriculteurs, ils fournissaient le travail pour mettre en place, pour installer les haies. Et donc ça, évidemment, ça a intéressé des apiculteurs. Ça s'est fait aussi avec eux et il y a eu des échanges autour de ça. J'ai aussi assisté à des initiatives de la Chambre d'agriculture de Lozère qui a mis en place des réunions apiculteurs-agriculteurs où j'ai observé qu'il y avait des échanges, des apprentissages mutuels qui étaient très forts et très intéressants à continuer. Et si je peux sortir un peu de ça, là, j'ai continué mes recherches en Haute-Loire, où le groupement des agriculteurs biologiques de Haute-Loire, Haute-Loire Bio, anime aussi un groupe apiculteurs-agriculteurs. Et on voit que ce n'est pas très évident de faire fonctionner ces groupes-là, parce qu'on a des logiques agronomiques qui sont différentes, on a des modes de fonctionnement qui sont très très différents et qui font que ce n'est pas toujours de dialoguer, mais à mon avis, ça peut être très, très riche.
Eh ben, merci beaucoup, Gabriel Gonella, pour cette immersion dans le milieu apicole, en milieu agro-pastoral, dans le secteur apicole en milieu agro-pastoral.
Merci beaucoup de m'avoir offert ce temps-là. Et je voulais en profiter quand même, parce que il y a probablement beaucoup de personnes que j'ai enquêtées qui m'ont accordé du temps, qui peut-être écouteront ça. Donc, je voulais aussi remercier ces personnes-là. De tête, un peu plus d'une cinquantaine de personnes qui ont reçu Estelle, la stagiaire, Léo et moi pour des entretiens qui parfois duraient 2-3 heures. Et donc merci du fond du cœur de nous avoir permis de mener ce travail.
Et ben, merci de leur transmettre tout ça via les ondes de Radio Bartas. À bientôt.
À bientôt.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières. Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et midi moins disque vient de sonner dans le studio de Radio Bartas. Victor est arrivé. Salut Victor.
Bonjour.
Alors, t'es venu évidemment avec un disque vinyle, comme chaque jeudi. Qu'est-ce que c'est ?
C'est histoire de repousser un peu la grisaille. C'est histoire de partir, de s'envoler. Dans le passé.
Tant de promesses.
Dans le passé, en avion, pourquoi pas, avec un bon avion des années 80.
Qui figure sur la pochette
oui, voilà,
du disque.
Voilà, voilà. Qui s'apprête à atterrir, là, pour le coup, mais ça veut dire qu'il est déjà loin. Mais c'est un morceau d'un groupe assez kitsch, mais néanmoins intéressant, qui s'appelle Modern Talking. Et le morceau, là, c'est Jet Airliner. C'est un maxi 45 tours, donc une version un peu... augmenté de cette espèce de je sais pas de curiosité, c'est assez drôle quoi. Et puis de toute façon c'est les années 80 flamboyantes quoi, donc
dans toute leur splendeur.
Oui, et c'est dans la continuité de l'événement qu'on a fait avec Salomé mardi à la pompe où c'était un atelier de fabrication de cartes postales d'amour, de haine.
En prévision de la Saint-Valentin.
Voilà, en prévision de la Saint-Valentin. Donc là, c'est aussi hein, dans la... Allons-y tout droit à la Saint-Valentin. Et puis, voilà quoi. Enfin, c'est un morceau qui est issu d'un album qui s'appelle The Romantic Warriors. Donc c'est que de promesses qui nous donnent envie de nous laisser aller quoi.
Et on les voit d'ailleurs, les Romantic Warriors, au dos de la pochette du disque.
Oui,
ils ont
oui.
un style absolument merveilleux, quoi.
Ben oui.
Décris-nous l'image, Victor.
Alors, eh bien, non, mais c'est un groupe allemand de deux personnes, hein, de protagonistes, de deux hommes, mais en réalité, ils étaient déjà au top de la queeritude et du non-binarisme depuis déjà depuis belle lurette. Enfin, ils ont les cheveux extrêmement longs sur un fond rose, habillés un peu des camaïeux de bleu un peu étrange. Et voilà quoi, ils sont sous le feu des un mélange de feu d'amour, de feu de d'envie, de crier haut et fort. Qu'il faut s'amuser, quoi. Qu'il faut s'amuser, qu'il faut s'envoler.
Et qu'il faut plonger avec eux dans le grand bain du kitsch.
Du kitsch, et voilà, ouais, vraiment. Romantic Warriors, c'est un peu leur, c'est un peu leur symbole, leur slogan, quoi.
Mm-hmm. Les précurseurs des Poetic Lovers, quoi, qui sont un peu dans la filiation, peut-être, après.
Ouais. Mais donc là, c'est un morceau un peu moins connu d'eux, finalement. Ils ont fait des morceaux beaucoup plus reconnaissables. Je ne vais pas citer les noms parce que peut-être ça ne revient pas forcément. Mais en fait, ces morceaux-là, c'est des tubes, c'est des choses qui reviennent à l'oreille. On ne sait même plus quel est le titre vraiment, mais juste ça nous marque pour une raison ou une autre. Et voilà, moi j'aime vraiment bien cet univers-là. Et là, avec toute la pluie qui tombe, là, c'est pas mal de quitter un peu le tarmac d'ici pour aller voir les États-Unis passer. Quoi.
Ok, alors on écoute.
We'll be right back.
On arrive au bout de cette version, comment on dit, extend.
Là, oui, oui. J'ai oublié de mentionner que, donc là, c'est la partie, enfin, c'est la face A du 45 tours. C'est le Fasten Seatbelt Mix. Donc,
attachez vos ceintures.
Voilà. Donc, c'est vrai que ça promet de grandes aventures, quoi. De toute façon, mais enfin, c'est énorme, quoi, comme truc.
Ouais, ouais. On est parti loin dans ce tube, mais on était en train de se dire que c'est vraiment. En fait, là, on a entendu le refrain, je ne sais pas combien de fois, vu que c'est la version un peu rallongée, mais plus on l'entend, plus on a envie de l'entendre. Quoi. Ça accroche quand même vraiment.
Ça peut ne jamais s'arrêter. Quoi.
Peut-être dans une certaine forme de paradis. Ouais. Il y a ça, on continue.
Peut-être. Hein.
Mais en tout cas, ouais, toi, ça t'évoquait prendre l'avion pour partir au soleil, mais il y a quand même un peu un fond de cold wave, quoi, un peu froid, pas sur le refrain, plutôt sur les couplets au début.
Oui, non, mais c'était simplement parce que voilà, c'est la jaquette de l'album qui évoque ça, mais c'est plutôt l'aspect aspect futuriste, un peu mécanique, avec de la lumière, des halos, des choses qui sont un peu dans le brouillard, comme ça. Mm-hmm. Puis qui donne un peu envie de sortir la tête de ça, ouais. Mais non, c'est pas, enfin, l'avion n'était pas forcément en lien avec le fait d'aller au soleil, quoi. Ouais. C'est vrai que oui, c'est assez bleu, c'est la nuit, hein, de toute façon, ça, c'est assez bleu, violet, quoi. C'est le genre d'ambiance que moi j'aime bien, quoi, enfin, ouais. Les années 80.
Ça donne hyper envie de voir le clip. On les imagine bien, les... comment ils s'appellent déjà, les
Modern Talkings.
Les Modern Talkings, oui.
Les
Romantic, non, comment t'as dit
Romantic
ça
Warriors.
Ouais, les Romantic Warriors en train de se déhancher.
Oui, voilà, hein, c'est exactement ça. Hein, c'est vraiment, ils incarnent les codes qu'on attend de cette époque-là, où ils apparaissent dans le brouillard, comme ça. Il y a de la lumière rose qui traverse un peu ce brouillard. Puis eux, ils sont là et ils font du playback sur leur morceau. Enfin, c'est
avec les guitares portées bien bas sur.
Oui.
Et bah merci Victor pour cette découverte. Du coup, vous l'avez passé à la soirée carte postale Saint-Valentin.
Je l'ai. Alors non, pas. Enfin, il était, hein, mais j'ai pas eu l'occasion de le passer. J'ai passé d'autres choses.
Du même acabit.
Voilà, exactement. du même acabit, ouais. Mais non, pas celui-ci. Celui-là, je le garde. Enfin, je l'avais acheté à un type qui en avait plusieurs, des Maxi 45. J'aime bien ceux-ci, ces formats-là, ils sont un peu particuliers. Ils sont toujours un peu. Il y a toujours un peu des surprises dessus. Ouais.
Mais tu connaissais avant d'acheter le disque ou pas?
Ou t'as découvert je connais le groupe, oui. Mm. Ouais, pour des morceaux. Peut-être un jour, je repasserai un beaucoup plus connu que celui-là.
Quand il aura bien plu, quand il aura fait beaucoup de brouillard, tu reviendras.
Ou à l'occasion d'une soirée 80 que j'animerai avec joie. Voilà.
Ça marche. Eh ben, merci beaucoup pour ça.
Eh ben, merci.
Et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Moi, je vous dis à mardi pour le prochain épisode de Midi et des Poussières. Et d'ici là, passez un bon week-end. Et d'ailleurs, pour savoir quoi faire ce week-end, eh bien, écoutez donc les annonces de Bartas qui arrivent à 13h30 sur le 107.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement
midi et des poussières. Midi et des poussières.
un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.